Ils doivent sauver le monde, vibrer avec les héros, tel est le thème de cette table ronde. Alors, à la table ronde, il y a Ellie Anderson, qui est médecin et écrivain. Et on verra tout à l'heure ce qu'il a écrit, mais enfin, 4 tomes quand même, je crois, de Oscar Peele, son héros. On va commencer par les hommes pour une fois. Victor Dixon, le cas Jack Spark, 4 tomes aussi. Manon Fargeton, un roman chez Manga, Mango, aussi libre qu'un rêve. Et maintenant, June, le souffle, qui vient de sortir chez Mango toujours. Marie Pavlenko, à gauche, qui n'est pas en retard, et qui a écrit les 2 tomes déjà du livre de Saskia, un troisième pour finir la trilogie, je suppose, qui va arriver bientôt. Et Karina Rosenfeld, qui a déjà plusieurs bouquins à son actif, Lucille et les dragons sourds, Le mystère Olfit, Le livre des âmes, qui est le premier tome de la quête des livres mondes, qui en compte 3. Non ? Oui, 3. Et D'Oregon, tome 1, 2, 3. Voilà, le troisième vient de sortir. Alors, la première chose que je voudrais leur demander, c'est de raconter chacun son héros et sa mission. Et on va commencer dans le même ordre par Ellie Anderson.
Alors, allons-y. Bonjour d'abord et merci d'être là. Je ne sais pas si ce micro... Si ? Oui ? Ça va. Oui, on me dit. Ça veut dire écrit. Alors, Oscar est un adolescent un peu comme tous les ados, à quelques nuances près, c'est-à-dire qu'il vit voilà, avec sa mère et sa grande sœur un peu fantasque dans une petite ville américaine. Et il n'a plus de père, puisque son père est mort juste avant sa naissance, en réalité. Et il se rend compte qu'il a hérité de lui un pouvoir extraordinaire, c'est celui de voyager dans le corps humain. Voilà, il est médicus, mais dans le corps humain, ce n'est pas du tout comme on l'imagine. C'est-à-dire que ce sont 5 univers, ce sont des montagnes, des océans, des peuples, des guerres, des cités, des amours, des ennemis, des amis. Voilà, donc c'est toute sa vie à l'extérieur et sa destinée de médicus qui doit lutter contre les ennemis jurés de l'humanité, qui sont les pathologus. Donc voilà sa maigre mission, quand même pas grand chose à faire, hein, sauver l'humanité, si on peut même plus faire ça de nos jours, entre 2 leçons, entre 2 cours au collège. Voilà qui est Oscar.
Victor.
Alors moi, mon héros s'appelle Jack Spark, à l'image d'Oscar, c'est aussi un adolescent comme les autres, a priori, sauf qu'il a un problème, il ne réussit pas à dormir, il est insomniaque depuis sa plus tendre enfance, ses parents ont tout essayé pour l'aider à dormir sans succès. Ils vont l'envoyer en désespoir de cause dans une clinique, un camp perdu dans les montagnes rocheuses au cœur du Colorado, où on prétend soigner les adolescents comme lui. Le pauvre Jack va se retrouver dans ce camp, il va se rendre compte qu'il s'agit d'une véritable prison, et il va essayer de s'en échapper avec d'autres pensionnaires rencontrés sur place. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les méthodes qui sont employées dans ce camp, soi-disant pour le soigner, vont avoir chez lui des effets inattendus, réveiller des mutations, des instincts cachés qui sont peut-être l'origine de son problème. Donc mon personnage n'est pas vraiment un héros au départ, il ne cherche pas vraiment à sauver le monde, mais plutôt à se sauver lui-même. C'est le point de départ du cas Jack Spark.
Il parvient quand même à sauver le monde. Bon, on verra
par la suite. Oui.
Manon
June, elle n'a pas du tout envie de sauver le monde, mais bon, du coup elle est un peu obligée parce que c'est l'héritière d'un pouvoir qui s'appelle le souffle, qui est le pouvoir des sylphes. C'est-à-dire que dans ce monde-là, dans le monde de June, il y a le monde des hommes, le visible, et puis il y a l'invisible qui s'y superpose, où vivent plusieurs peuples, dont les sylphes, qui sont les tenants de l'harmonie, alors que d'autres sont les tenants du chaos. Et en fait, le chaos va prendre le dessus peu à peu, et les sylphes vont disparaître les uns après les autres, et la dernière des sylphides, en mourant, va transmettre son pouvoir à June, et son job, ça va être de ramener l'équilibre entre l'harmonie et le chaos dans l'invisible. Voilà.
En toute simplicité.
Bon, <c'est rire> Marie.
Bonjour. Alors moi, Saskia, c'est pas très original, c'est une adolescente également, comme les autres, qui est orpheline, qui a été adoptée par sa maman actuelle, hein, quand elle était tout bébé. Et qui va découvrir qu'elle n'est pas humaine, elle appartient à un peuple qui s'appelle les Enkidar. qui sont des créatures ailées et qui sont divisées en deux peuples qui se font la guerre. D'un côté, les faucheurs qui aspirent l'âme des morts, qui sont chargés de récupérer l'âme des morts, leur personnalité, leur être. Et de l'autre, les gardiens qui sauvent les vivants. Et en fait, voilà, il va lui arriver plein de choses. D'abord, elle découvre qui elle est. Et ensuite, elle est embarquée dans un combat bien malgré elle. Et moi, je me suis attachée à essayer de faire une héroïne qui soit finalement en fait très humaine, avec des failles, des fêlures, qui ne soit pas super costaud et qui fonce partout, mais qui réagisse de façon très humaine et réaliste, entre guillemets, aux événements auxquels elle est confrontée.
Voilà. Il reste Karina.
Je parle des héros de la dernière trilogie.
Oui, c'est bon.
Plusieurs. Vous avez deux heures. Alors, contrairement à mes livres précédents, où mes héros sont plutôt des adolescents, selon les aventures, entre 13 et 16 ans, dans ma trilogie d'Oregon, j'ai écrit des héros qui sont plus âgés, qui tournent autour de la vingtaine, qui sont déjà étudiants après le bac. L'héroïne s'appelle Mia. Elle est étudiante aux Beaux-Arts et elle apprend la peinture, c'est sa passion depuis toute petite. Et elle peint des tableaux d'un monde qu'elle imagine et qu'elle a elle-même nommé d'Oregon. Et elle a ses visions de ce monde qui lui viennent régulièrement. Elle pense l'imaginer jusqu'au jour où elle hérite d'un pouvoir qui s'appelle le secret, qui lui permet de rentrer dans ses tableaux et de rentrer dans d'Oregon. Sauf que c'est pas elle qui l'a imaginé, il existait déjà. Et elle était en résonance avec cet univers, c'est pour ça que elle avait ces images qui lui venaient. D'Oregon est une espèce de sas, c'est un monde dans lequel s'ouvrent d'autres mondes. Donc il y a une espèce d'immense couloir, ce qu'on appelle le couloir au tableau. Et chaque tableau qui se trouve dans ce couloir est une porte vers un autre univers. Et chaque univers a été créé par des êtres humains qui ont un pouvoir de création. Et donc ce pouvoir se transforme en une bulle de monde qui se crée et qui s'ouvre en D'Oregon. Et Mia va devoir devenir le veilleur de D'Oregon, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouveau monde s'ouvre, elle doit le visiter et elle doit juger s'il est dangereux ou non. S'il est dangereux, elle doit le faire fermer. Et bien sûr, il y a un danger qui va venir, sauf que le danger ne vient pas de là où on l'imagine. On pourrait penser que c'est un monde mauvais qui va s'ouvrir et qu'elle va être confrontée à un problème vis-à-vis de ce monde. Et en réalité, c'est Mia qui va amener le danger et le mal avec elle sans le savoir. Et suite à ça, elle ne doit pas sauver le monde, elle doit sauver les mondes de D'Oregon. Tant qu'à faire, autant multiplier la tâche par une infinité de possibilités. Et donc voilà, donc le tome 1 s'appelle Les portes de D'Oregon parce qu'elle découvre toutes ces portes qui s'ouvrent vers les univers différents. Le tome 2, c'est La guerre de l'ombre, puisque c'est pas le chaos, le néant, c'est l'ombre qui s'insinue et l'ombre mange toutes les couleurs, toute la lumière et va rendre toute cette beauté de ces univers. Le but, c'est de les rendre uniformes et froid et mort. Et dans le dernier tome, Les cracheurs de lumière, qui est sorti la semaine dernière, il faut trouver la solution pour pouvoir protéger et sauver tous ces univers qui sont en danger.
Sauver le monde, c'est vraiment une occupation pour les jeunes. Et si vous leur foutiez la paix à tous ces héros, à tous ces jeunes, et d'en faire pas des héros et les laisser bien à leurs études, à leur famille. Victor, pourquoi confier sur les frêles épaules d'adolescents ces sagas et ces missions absolument extraordinaires?
Moi, je pense qu'à l'adolescence, on se réveille de l'enfance. Hein. Pendant l'enfance, on vivait un peu dans le merveilleux. Et on se rend compte, en devenant adolescent, que le monde est réel, que la magie n'existe peut-être pas. Peut-être que sauver le monde, c'est un moyen de se le réapproprier également. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, hein, à mesure que les séries jeunesse comme ça ont connu une maturité, il ne s'agit pas uniquement de sauver le monde, mais aussi de changer le monde. Et ça, c'est aussi une grande aspiration de l'adolescence, hein, les idéaux. C'est-à-dire que le monde qu'on veut sauver, on veut également qu'il soit meilleur que celui d'hier. Et c'est ce qui va se passer dans ma série avec Jack Spark, qui va effectivement se rendre compte que toutes ces créatures merveilleuses qui peut-être partageaient le quotidien des humains dans le passé, qui ont été reléguées dans les profondeurs par la société moderne, pourraient peut-être coexister à nouveau avec les humains dans un monde qui soit meilleur et plus juste.
Manon ?
Complètement d'accord. Dans June, typiquement, le monde n'a pas à être sauvé, parce que le monde existe, les humains survivent, sauf qu'il est en proie au chaos et que June a la possibilité de le rendre meilleur. Et effectivement, c'est qu'est-ce que je veux pour mon avenir aussi. C'est cette question-là qu'on se pose à l'adolescence et qu'on n'arrête pas de se poser après, mais qui apparaît essentiellement à l'adolescence. Donc c'est aussi pour ça que c'est fort d'avoir ces héros jeunes qui portent cette question-là pour la première fois, en fait.
Élie ?
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Victor. Et ou alors, je suis pas j'ai pas encore atteint l'adolescence, mais, ce qui n'est pas exclu. Je dois bien le reconnaître. Mais je crois qu'on a envie, en tout cas, de croire encore à de la magie. Je crois que quand on voit les gens venir aux signatures, vous vous rendez compte que c'était plus seulement des adolescents. Alors peut-être parce que nos héros grandissent aussi, on les fait évoluer et tout. Oscar avait 12 ans le premier, il en a 16, il en aura 18 dans le dernier. Donc je vois aussi les lecteurs grandir. Il y a pratiquement la moitié d'adultes. Et au début, on a d'ailleurs ce réflexe de penser que ça ne s'adresse qu'aux adolescents. Et on demande d'ailleurs à l'adulte, c'est pour qui ? Et là, en général, la dame dit, mais c'est pour moi ? Alors, toujours gêné, on m'évite le prénom de la dame en question. Mais je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin, même si on n'a pas envie de se dire que c'est absolument vrai. On sait que ce n'est pas vrai, mais on a envie d'y croire et on a besoin de ça. Et sauver le monde, c'est aussi une façon de et là, je rejoins un peu Victor, c'est se l'approprier un petit peu, ou alors l'apprivoiser, ou accepter les difficultés, les douleurs, les contingences du monde actuel. Voilà. Par exemple, c'est sûr que j'ai l'exemple d'Oscar, mais quand Oscar doit sauver le monde, il ne doit pas vraiment sauver le monde. Alors lui-même ne le veut pas. Très souvent, nos héros ne le veulent pas. Jack ne le veut pas. je le dis. Et c'est formidable. Bravo. Là, Oscar non plus ne veut pas. Il a des enjeux aussi personnels qu'il fait souvent passer avant, parce que c'est ça aussi l'adolescence. Ce n'est pas encore vraiment comprendre la différence entre des enjeux très personnels, des enjeux collectifs, des enjeux de dimension humaine et même mondiale. Donc je suis convaincu aussi que sauver le monde dans leur cas, c'est aussi une façon de s'approprier ce monde-là. Oscar, je l'ai conçu quand je suis médecin. Alors avec ce que je fais de mes héros et des gens qui sont dans mes livres, j'ai de moins en moins de patients et on le comprendra. Voilà, mais il se trouve que j'ai été médecin, je le suis encore parce que l'inconscience de la société française fait qu'on garde son diplôme de médecin à vie. Mais j'ai soigné des adolescents à l'hôpital et l'un d'eux, en l'occurrence, ne voulait pas son traitement. On avait très peur, il avait très peur de son corps. Et je me suis mis à lui raconter l'histoire d'Oscar qui pouvait entrer dans le corps et en lui disant, à l'intérieur, c'est pas du tout comme tu imagines, c'est pas un affreux foie, un horrible rein et des intestins, c'est autre chose, c'est une montagne extraordinaire, ce sont des lacs et des océans très profonds, ce sont des grottes qui pulsent toutes les secondes, voilà. Et c'est une façon de s'approprier son corps et d'être bien dans ses baskets, et je trouve que, voilà, alors on n'a pas la prétention de sauver le corps humain et donc l'humanité. Et Oscar ne pense pas l'être en étant médicus, en appartenant à cet ordre secret, mais en tout cas, au moins, on se familiarise avec un monde qui nous est douloureux, difficile, et qu'on a le droit de voir autrement. Et être bien dans son corps, c'est être bien dans ses baskets, et être bien dans le monde pour Jack ou ailleurs, c'est la même chose. Mais en tout cas, moi, la magie, j'y crois. Hein. Moi, je suis sûr que c'est comme ça.
Marie ?
Alors, moi, Saskia, elle sauve. Elle n'est pas forcément appelée à sauver le monde, elle est surtout appelée à réunir deux peuples qui se font la guerre, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais j'ai quand même l'impression, moi, que sauver le monde, c'est quand même un des plus vieux mythes qui existent, et c'est quelque chose de très archaïque qui est inscrit dans l'histoire de l'humanité, et parce que c'est aussi une métaphore, et ça se prête très bien au récit initiatique, parce que l'adolescent se confronte aux choses et se découvre lui-même. Il y a vraiment, je pense, quelque chose qui est inscrit dans cette mythologie-là de peut-être se sauver soi ou se trouver soi, mais enfin, ça se passe autour de la métaphore quand même, j'ai l'impression.
Karina, l'héroïne, elle apporte elle-même le mal dans le monde. Ça, c'est original.
Oui, en fait, pour revenir un peu à ce qu'on dit, parce qu'elle est plus complètement adolescente, mon héroïne, même si tous mes autres héros ont été adolescents et ont dû aussi sauver souvent le monde, je pense que quand on est un être humain conscient de sa réalité, quand on se lève le matin, on a un monde à sauver tous les matins. Ça peut être sa propre journée, son propre destin, celui de gens qu'on aime et qu'on a envie d'aider. Chacun a sa mince mesure par un sourire, par une parole, par une action. On va sauver une petite parcelle de monde, et je pense qu'écrire une histoire comme ça, c'est se coller peut-être finalement beaucoup plus à la réalité qu'on l'imagine, c'est-à-dire qu'on a tous en nous ce besoin. Alors, il y en a qui ne l'ont pas, malheureusement, mais on va dire de faire le bien ou d'essayer d'apporter quelque chose d'un peu plus lumineux dans une journée. Et nos héros, c'est un peu ça, c'est tous apporter cette étincelle de mieux. Alors là, ça prend des proportions beaucoup plus importantes. Mais on a aussi en nous une petite parcelle d'ombre, certainement, et c'est cette parcelle-là que Mia va amener avec elle sans s'en rendre compte. Parce qu'on n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et on fait aussi des erreurs, et là, alors c'est pas elle qui a le danger en elle, attention, hein, c'est pas une parcelle de méchanceté qu'elle a en elle, mais elle fait une erreur. Voilà, elle fait une erreur, et cette erreur, ça ouvre la porte à l'ombre et à la destruction. Et elle fait cette erreur par amour, en plus. Donc, voilà, ça complique encore plus les choses, c'est-à-dire, est-ce que l'amour qu'on porte à une personne... Est-ce qu'on est aveuglé par cette personne? Est-ce qu'on la voit telle qu'elle est vraiment? Est-ce qu'on la voit telle qu'on a envie de la voir? Ça pose toutes ces questions. Et puis, ça pose aussi la question là, de l'imaginaire, dans le sens où, puisque chaque monde qui se crée est une création de quelqu'un. Donc là, par exemple, il y a le monde de Dali, parce que Dali était un créateur, mais il ne le savait pas, donc il n'a jamais visité son propre univers. Mais elle le visite, elle rentre dans un tableau, et elle voit les montres molles, et elle voit les tigres et les éléphants sur leurs grandes pattes, etc. Donc ça pose aussi la question de l'imaginaire, à savoir est-ce qu'on peut tuer complètement l'imaginaire, la magie, la beauté? Est-ce qu'on peut avoir envie de ça? Est-ce que ça peut menacer un jour? Alors heureusement, quand on vient dans un salon comme ça, on se rend compte que l'imaginaire a de beaux jours devant lui. Mais voilà, pour moi, ça reste toujours, malgré tout, des histoires extrêmement humaines. Et je pense que c'est cette humanité qui sont dans chacun des héros qui a une résonance avec le lecteur, qui peut se reconnaître en lui, même s'il ne va pas sauver le monde tous les jours, il va quand même sauver son monde à lui d'une certaine manière.
La littérature jeunesse est faite de héros. Les héros sont souvent jeunes. C'est une question d'identification pour que le lecteur s'y retrouve, Manon?
Pour moi, essentiellement. C'est aussi l'envie du récit initiatique qui effectivement un personnage jeune va s'y prêter plus volontiers, même si c'est pas forcément obligatoire. Un personnage plus âgé peut très bien avoir un événement qui chamboule complètement sa vie et qui va le faire changer profondément. Mais moi j'étais intéressée aussi par ce moment de passage qui est très fort entre l'enfance et l'âge pseudo-adulte. On ne sait pas trop encore qui on est, on ne sait pas trop où on va, et on apprend à se découvrir. Alors, avec des personnages qui, là, ont des pouvoirs particuliers et qui s'en rendent compte, mais au final, on a tous des pouvoirs particuliers, et c'est là, ça peut être le pouvoir d'écrire, ça peut être le pouvoir de plein d'autres choses, et c'est là qu'on le découvre. Donc, ouais, le personnage jeune, c'est ça qui m'intéressait.
Marie aussi?
Alors moi, c'est un peu la même chose, c'est l'âge des transformations. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'âge du doute. C'est-à-dire que c'est vraiment la transformation, mais on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça se prête énormément à l'imaginaire aussi. Qui je suis? Est-ce que je suis une gentille, une méchante? Comment est-ce que je maîtrise mon corps? Moi, je trouve qu'il y a énormément de choses qui se passent autour du corps. Tu parlais de mutation, là. Moi, je n'ai pas lu ton livre, mais je ne sais pas. Il y a toujours quelque chose, le don, le souffle. On est toujours aussi autour de la transformation, à la fois psychologique et physique. Et ça aussi, l'imaginaire, ça permet des métaphores qui sont très jolies, mais qui parlent de choses finalement extrêmement prosaïques, j'ai l'impression.
Karina?
Oui, je trouve que ce qui est intéressant dans le jeune, c'est qu'il a toutes les possibilités devant lui, et nous, on va lui choisir une de ces possibilités. Et parfois même, quand on écrit livre, c'est lui qui choisit une des possibilités qu'on n'avait pas forcément prévues. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est cet éventail de questions auxquelles il est confronté. Effectivement, ça peut être qui j'ai envie de devenir, qui je peux devenir, quelle voie je vais choisir dans ma vie, qu'est-ce que je vais exploiter le plus chez moi. Alors là, c'est effectivement des dons, mais ça peut être, on est très bon en maths, on est très bon en français, on est très bon en danse, et qu'est-ce que je vais faire de ces dons pour devenir qui je suis? Le changement du corps, en effet, là, je l'aborde moins, mais dans la quête des livres-monde, avec les ailes qui sortent, quand j'ai rencontré tous les collégiens pour ce livre-là, j'ai rencontré 3000 collégiens avec le prix des incorruptibles. Ils ont tous compris que la métaphore des ailes qui sort, en plus il y a le sang qui coule, c'est douloureux, et l'adolescent il a 16 ans, il se regarde dans le miroir, il se reconnaît plus parce qu'il a ses ailes dans le dos. Voilà, ça les a énormément touchés. C'est la scène qui les a marqués parce qu'il y avait une résonance sur ce qui pousse dans le corps quand on est adolescent, et ça peut être douloureux physiquement et psychologiquement, et quand on se regarde, on n'est plus le même qu'il y a quelques jours, quelques mois. Et donc toutes ces questions se posent évidemment avec l'adolescent. Et puis voilà, il a toutes ses possibilités devant lui. Il a tout. Quelqu'un qui est un peu plus âgé va peut-être avoir déjà une connaissance et va avoir les réponses plus rapidement à certaines questions, alors que l'adolescent ou le jeune adulte, comme on dit aussi maintenant, encore besoin de toutes ces réponses et tout ce cheminement pour se construire. Et c'est là où on peut exploiter toutes ces myriades de possibilités qui se présentent à lui et à nous.
Élie, Oscar, il devait avoir 14 ans. C'était obligatoire au départ.
Non, alors, il a commencé par avoir 12 ans. Il y est passé quand même. Il va aller directement à 14. Et là, il aura 18. Et moi, je trouve que c'est... Voilà, il y a aussi un plaisir assez égoïste pour l'auteur. Indépendant de ça, c'est de pouvoir faire grandir un personnage. Moi, je trouve ça génial. Partir de 12 ans, arriver à 18 ans, c'est vraiment un monde. C'est pas du tout comme 30 à 40 ou 40 à 50. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment des... tu parlais du doute, de la transformation, de ça. Et je crois qu'il y a aussi la révélation. Il y a des choses qu'on découvre complètement à ces périodes-là. Mais il y a aussi toutes ces choses qui se passent à l'intérieur, qui n'ont rien à voir avec l'environnement, qui est la maturation d'une personnalité et tout. Et je trouve ça vraiment très, très chouette. Et puis, je pense que l'autre intérêt comme ça de l'adolescent, c'est permettre justement à des ados, mais aussi à des adultes, de lire ces livres-là et de retrouver, par cette identification, de retrouver la part... adolescente qu'on a en soi et qui sommeille et qui ça ne veut pas dire immature, hein, adolescente, c'est justement se permettre le rêve, le voyage, l'exploration et accepter du coup tout ce qu'on utilise nous parce que on a quand même on se permet pas mal de choses quand même dans nos romans et finalement on se dit il faut bien qu'on le légitime, alors on va mettre des ados comme ça, les lecteurs ils vont se trouver ados, ils vont accepter que voilà, en fait on est vraiment des margoulins, mais ça fait plaisir.
Et Karina, pourquoi avoir augmenté l'âge du héros, pourquoi passer de 14-16 à 20-25?
Déjà j'avais envie moi aussi d'explorer d'autres possibilités. Quand on a 20-22 ans, on n'est pas les mêmes que quand on a 14-16. On peut aborder certains sujets d'une autre façon. Il y a une autre maturité, les rapports entre les êtres eux-mêmes changent. J'ai des lecteurs qui me suivent maintenant depuis 4 ans, qui ont commencé à lire mes livres quand ils avaient 13-14 ans. Maintenant, ils approchent même de la vingtaine. Et c'était intéressant pour moi de leur offrir des héros. Alors, pas qu'ils grandissent en même temps qu'eux, puisque c'est pas les mêmes héros, mais d'autres héros qui se rapprochent d'eux. Pour moi, c'était aussi changer un peu de sujet, on va dire.
C'est toujours la littérature jeunesse ?
Alors, c'est... voilà, c'est du young adulte. Maintenant, la Talente a la collection adulte et la collection jeunesse. Donc, on va dire que... Enfin, moi, j'aime pas de cataloguer. De toute façon, j'écris des histoires que j'ai envie d'écrire. Les gens qui ont envie de les lire, les lisent, peu importe leur âge. On me dit tout le temps, t'es quand même très borderline sur ce livre entre la jeunesse et l'adulte. Bon, bah voilà, après, la Talente me dit, c'est de la jeunesse. Ok, si vous voulez, y a pas de souci. Parce que ça, j'ai peut-être aussi déjà beaucoup de lecteurs en jeunesse et que ça permet aussi de rester dans cet univers, j'en sais rien. Peu importe, moi, en fait, je dis qu'on soit en jeunesse ou en adulte. Comme disait Élie, moi aussi, j'ai énormément d'adultes qui me lisent. Bon, voilà, quoi. Comme je dis, les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent lire cette histoire-là et qu'elle leur plaît, tant mieux. Mais c'est vrai que j'avais pas envie de poser tout à fait les mêmes questions avec ces héros-là. Donc, tout ce que j'avais déjà abordé dans mes livres précédents sur la transformation du corps, sur l'identité, sur toutes ces choses-là, j'avais pas forcément envie de les aborder dans celui-là parce que ça y est, c'est fait. C'était l'occasion d'explorer d'autres chemins.
Karina a parlé tout à l'heure de réactions d'adolescents lors de rencontres. Vous avez beaucoup de réactions d'adolescents sur vos livres, Victor ?
Oui, c'est vrai qu'on en a de plus en plus. Alors, il y a pas mal d'occasions où on peut échanger avec les lecteurs. Il y a les rencontres, les festivals comme celui-ci, de plus en plus Internet aussi, hein, qui a vraiment pris le relais, les forums, les blogs sont un formidable moyen pour les auteurs d'être en contact avec leurs lecteurs et d'échanger sur les livres, sur les thèmes, sur les personnages, sur ce qui a frappé l'imagination des lecteurs, sur ce qu'ils ont retenu. Effectivement, moi j'ai eu beaucoup de retours sur la figure de la mutation, dont on a déjà beaucoup parlé. Je pense que ça, c'est une métaphore qui parle énormément aux adolescents. Comme tu disais, Marie, à la fois psychologiquement et physiquement. Moi en particulier, la transformation du corps, c'est un thème qui me fascine. Je pense que dans Oscar Pilde, le fait aussi de rentrer à l'intérieur du corps, d'essayer d'apprivoiser cette réalité corporelle à travers l'imaginaire, c'est sans doute quelque chose qui fonctionne très bien. J'avais été très sensible à la scène de la transformation dans la quête des livres au monde, avec les ailes qui poussent. On sent physiquement cette transformation. Moi, ça m'a fait penser à une poussée d'acné. Mais bon.
Ce sont des boutons d'acné au départ.
Non, c'est la métaphore du bouton d'acné. Donc, en même temps, ça permet d'apprivoiser ça. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus terrifiant pour un adolescent qu'une poussée d'acné? En lisant la livre de quête des livres au monde, on se rend compte que c'est peut-être le prélude à un destin angélique. Voilà, c'est parfait. Et dans le cas de Jack Sparks, mon héros, effectivement, va connaître tout un tas de mutations physiques. Sa pilosité va se développer d'une manière étrange, inquiétante. Ses sens, sa manière de percevoir le monde va également évoluer et il va être complètement désemparé face à toutes ces transformations jusqu'à ce qu'il décide de prendre son destin en main. Donc on revient également à la question qu'on avait au début de cette table ronde. Sauver le monde, se sauver soi-même, je pense que ça commence toujours par une prise de conscience de soi, de qui on est, de qui on veut être, et ensuite on s'ouvre aux autres et on s'ouvre à des enjeux qui nous dépassent. Et je pense que cette maturation, elle est vraiment importante dans la littérature jeunesse d'aujourd'hui. Ce n'était peut-être pas le cas dans les héros pour jeunes ou pour enfants des temps passés. Aujourd'hui, il y a toujours cette part de doute. Hein, c'est aussi un terme qu'on a beaucoup employé, la faille, le doute. Nos héros ont le droit de se tromper, et ils se trompent souvent. Et c'est ce chemin, c'est cette errance finalement qui en fait l'intérêt à mon avis. Et c'est ce que les jeunes lecteurs recherchent aujourd'hui.
Qu'est-ce que les lecteurs vous disent, Manon ?
Plein de choses, c'est ça qui est hyper perturbant et complètement génial. Moi, quand mon premier roman est sorti, il n'y avait pas encore tous ces blogs. Et j'ai découvert ça avec June. Et... sur le premier roman, j'avais dû attendre genre 3 mois avant d'avoir une première critique sur Internet ou un truc. June, 2 jours plus tard, il y avait une lectrice qui avait posté une critique sur son blog. Et étant en train d'écrire la suite, c'est génial de voir leurs attentes, de voir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, pourquoi. Et en plus, souvent sur les blogs, c'est très argumenté, c'est très fouillé comme critique. Et donc c'est vraiment super intéressant. Après, ce qu'ils me disent, on va plein de choses, et puis en plus on échange derrière.
Cette influence pour la suite ou...
Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, il y a des choses que j'aurais pas forcément mis dans le deuxième tome, et en voyant leurs attentes, je me suis dit, je vais plus développer ce personnage-là, parce que je pense qu'il y a vraiment un truc qui se passe avec ce personnage que j'avais pas forcément détecté au départ. Et puis d'autres choses où je me dis, non, ça, ils auront pas la réponse tout de suite, ou ils l'auront peut-être pas du tout, et ils vont faire leur choix sur ce qu'ils veulent croire. Mais je leur donnerai pas la réponse, c'est leur choix. Même si ça les a dérangés pendant la lecture, c'est pas grave, ça reste leur choix. C'était mon choix de départ, que de pas trancher sur tel point. Donc je ne trancherai pas sur tel point, ce sera leur choix. Mais oui, ça m'influence évidemment. Ouais.
Les rapports avec le lecteur, Marie.
Alors il y en a deux, un peu comme tout le monde, je pense. Il y a les petits mails, les petits Facebook, où on est généralement quand même, j'ai l'impression en tant qu'auteur, très gâté. On a des messages adorables. Enfin, moi je trouve que ça fait énormément de bien quand on est devant son ordinateur toute la journée, tout seul, et qu'on a des retours, c'est très très agréable. Et puis il y a les chroniques de blog, effectivement. Moi je trouve ça intéressant. Comme Manon, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. En fait, c'est la façon dont le livre échappe, moi, que je trouve assez fascinante. C'est-à-dire qu'on écrit avec une idée, on veut faire passer des... Enfin, on veut faire passer... En confrontant le héros à des choses, il y a quelque chose qu'on veut dire, quand même. Et on se rend compte que les lecteurs, ils piochent, ils voient quelque chose que nous, on n'avait pas du tout anticipé. Enfin, voilà, c'est la façon dont le livre... part et adoptée, moi, que je trouve très enrichissante et assez magique.
Ouais. Moi, j'adore. J'adore ça parce que je trouve que le Le job, là, il est parfois un peu ingrat. C'est-à-dire qu'enfin, il est formidable, il est génial, on adore faire ça, sinon on n'y serait pas. Mais on est quand même... Si on s'arrête au moment où on publie le livre, on a l'impression d'avoir fait la moitié du chemin, et de l'autre côté, ben, c'est plus pour nous. Et parce qu'on n'a pas quand même le temps... Enfin, je ne sais pas comment vous faites, mais je pense que ce n'est pas plus que moi. On ne peut pas venir à tous les salons, on ne peut pas aller dans toutes les librairies, on aimerait bien, mais vraiment passer de l'autre côté, c'est-à-dire aller parler avec vous, vous écouter, savoir ce que vous y avez trouvé, c'est quelque chose de formidable parce qu'on a l'impression de poursuivre le chemin. Parce que c'est vrai qu'une fois que le livre est publié, ben, il nous échappe, quoi. C'est vraiment, il vit sa vie, vous en faites ce que vous voulez, vous y trouvez ce que vous avez envie d'y trouver ou pas, peu importe. Mais voilà, donc j'adore ça. Et moi, dès le départ, et dès qu'on a commencé Oscar, mais déjà avant pour mes livres adultes, j'avais des blogs. Et là, celui d'Oscar, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que j'y passe 2 heures par jour. Pratiquement, parce que je pense que c'est quelque chose de très facile et c'est un moyen qui leur est très familier, hein, aux lecteurs aujourd'hui, quel que soit l'âge. Donc ils y ont accès très facilement et avec beaucoup de spontanéité, mais ça devient une part très importante, mais même en matière de temps, c'est-à-dire que on pourrait y passer la journée dessus. Donc moi j'ai à peu près 200 mails par jour. J'en ai, je disais à Elia, avant de venir, j'avais 19 240 mails en retard. Bon,
ah, c'est sympa,
alors,
ça.
Pas très, c'est difficile, ça va vite. Alors c'est frustrant parce que du coup, on a l'impression qu'on peut pas tout faire, on peut pas répondre à tout, et on aimerait bien, mais c'est vraiment un prolongement formidable. Donc je vous promets pas de rattraper tout le retard, mais continuez. Hein. Il faut y aller parce que c'est vraiment génial. Pour nous, je trouve que c'est fabuleux. Hein. Je suis sûr qu'on est tous d'accord là-dessus. Bien sûr, pour ce qu'on apprend, vos envies, mais aussi parce que c'est une façon, vous nous offrez un moment au-delà de la publication, vous nous permettez d'aller un peu plus loin avec le livre et de vous écouter, parce qu'on est très curieux, en fait, on a très envie de vous entendre. Donc oui, ça prend du temps et c'est très chouette.
Carina, les rapports avec les lecteurs, ça fait changer la façon dont tu écris ?
Mais c'est très particulier. Moi, j'ai eu la chance d'être sélectionnée 2 ans de suite pour le prix des incorruptibles. Donc, on se balade dans tous les collèges de France en 2 ans. Donc, la première année pour la quête des livres mondes et la deuxième année pour les clés de Babel. J'ai rencontré 5000 collégiens en 2 ans. C'est énorme. C'est waouh. Voilà. Et alors, on reçoit un amour, mais absolument fabuleux. C'est les gens qui sont passionnés, qui offrent des cadeaux, qui font des dessins, des spectacles, des chansons, des poèmes. Voilà, alors après il y a Internet en plus, moi c'est vrai que j'ai eu cette chance de rencontrer autant de personnes physiquement. Alors je ne peux pas leur parler à chacun parce que 5000 discussions, ça prendrait un temps fou. Mais voilà, j'ai eu des moments d'une richesse et merveilleux et je suis tout à fait d'accord. C'est, voilà, moi je ne suis pas médecin, je suis devant mon ordinateur.
Non, non, cette journée.
donc il y a des moments où je ne vois personne dans la journée à part mon fils et mon chat. Et j'ai beaucoup moins de conversations avec mon chat qu'avec mon fils, quoique parfois. mais voilà, et quand j'ai cette chance de pouvoir aller au-delà de l'ordinateur et rencontrer les gens physiquement, pouvoir parler avec eux, c'est le livre est vivant. Voilà, nos héros sont vivants, le livre est vivant, il est lu, il est commenté, il est aimé, il est détesté, il provoque des choses chez le lecteur. Et c'est pour ça qu'on écrit, hein. C'est pas pour que ça prenne la poussière sur une étagère ou que ça reste un fichier dans un ordinateur, c'est vraiment pour que le livre soit vivant et tous ces échanges, qu'ils soient dans la réalité ou sur Internet, nous enrichissent énormément. Et moi, c'est vrai que je sais pas si ça influence vraiment ma façon d'écrire, dans le sens où quand j'ai une idée de livre, elle est tellement ancrée en moi que c'est mon univers et il faut qu'il sorte. Mais je pense qu'effectivement, je suis... Les lecteurs sont dans l'attente de mon prochain livre et moi je suis dans l'attente de leur réaction par rapport au prochain livre. Quand je change d'univers, quand je change de personnage, quand je change de mode narratif, j'ai un peu peur. Oh là là, est-ce qu'ils vont me suivre là-dessus? Est-ce que ça va être la cata ou pas? Et voilà, mais c'est toujours une expérience merveilleuse.
Tout cela est réjouissant quand on dit comme ça, ça se colporte que les jeunes ne lisent plus, de voir toutes les réactions autour de vos livres. En fait, on dit que c'est écrit pour les jeunes, mais quand vous écrivez ces héros qui doivent plus ou moins sauver le monde, ou sauver leur univers, ou se sauver soi-même, en fait, on a tous eu des fantasmes, des rêves d'être un héros, de sauver notre famille, nos amis, nos pays, ou le monde lui-même. Est-ce que, en écrivant ceci, vous réalisez vos fantasmes, Victor ?
J'ai jamais vraiment réfléchi en ces termes. Moi, j'ai surtout pourquoi j'écris sur l'adolescence, pourquoi est-ce que j'ai des héros qui sont adolescents. Pour moi, c'est un moyen d'explorer un thème qui m'est très cher, c'est le thème de l'identité, c'est-à-dire qui on est, est-ce qu'on décide, est-ce que c'est donné, quelle est la marge de décision. Et à travers l'adolescent qui se trouve justement à ce croisement des chemins, ce croisement de tous les possibles, hein, c'est ce qu'on disait, tout paraît possible et en même temps tout paraît insurmontable à cet âge-là, c'est un moyen pour moi de creuser cette question en profondeur. Et la mutation, le fantastique, donne des ressources supplémentaires finalement pour pousser le questionnement sur l'identité. Donc s'il y avait un fantasme effectivement à assouvir à travers l'écriture, ça serait celui de la quête de l'identité en ce qui me concerne.
Pardon ?
Oui, complètement. parce que je travaille beaucoup à partir de mes rêves, donc qui est une projection directe de l'inconscient. Je pense que les fantasmes sont très présents dans les rêves. Voilà, donc effectivement, il y a une part de c'est génial, elle va manipuler des flux d'air, ça va être trop fun. Voilà. J'aimerais bien pouvoir faire ça en vrai, quoi. Oui, complètement.
Marie.
Alors moi, j'ai peur de prendre l'avion, j'ai le vertige, voilà. Et quand Saskia vole, je suis quand même très, très, très contente. Ça rattrape un petit peu. Évidemment, c'est vraiment l'imaginaire, c'est quand même l'univers dans lequel on peut ancrer des choses. Et s'échapper aussi soi quand on écrit. Après, il se passe aussi, Dieu merci, plein d'autres choses fantasmes.
Oui, Élie.
Moi, Oscar ne réalise pas de fantasmes. il concrétise une conviction que j'ai toujours eue. Donc, c'était même plus un fantasme, je l'avais déjà réalisé, parce qu'un fantasme, ça se réalise en général pas. Moi, je l'avais déjà réalisé tout petit. Et d'ailleurs, c'est pas un fantasme d'adulte. Moi, j'ai un fantasme ou une conviction d'enfance. Tout petit, moi, je vais décortiquer les insectes pour voir si dedans, il y avait bien mes univers. J'en étais convaincu. Non, ça n'a pas été facile pour mes parents, je le reconnais. Très tôt, ça a été difficile. Mais, faut bien le dire. Mais j'étais convaincu de ça. Et longtemps, et quand je me suis dit, tiens, peut-être commencer à ouvrir les êtres humains après les insectes, mes parents m'ont dit, on va se calmer, tu vas aller à la fac de médecine. Et là-bas, on m'a dit, c'est une très belle machine, mais c'est juste une machine, c'est pas du tout ce que vous pensez. Et j'étais furieux, vraiment, je suis convaincu encore aujourd'hui de ça. Donc, Oscar m'a permis simplement d'affirmer ma conviction que j'ai depuis mon tout jeune âge, et je trouve que c'est encore mieux qu'un fantasme. Voilà, donc merci à Oscar.
Mais Élie, en tant que médecin, t'as pas un fantasme de sauver des gens ? Enfin, je veux dire, il y a quand même un vrai désir de...
Je vais te dire, pendant des années, je les ai soignés, on a trouvé ça tout à fait normal. Et quand je me suis mis à les tuer, on a trouvé ça formidable. Je vois vraiment pas pourquoi je me cassais la tête. Non, bien sûr que c'était formidable, et surtout c'était. Je pense qu'on fait pas médecine pour rien. Ça, c'est évident. Là, oui, ça reprend peut-être des fantasmes, des choses comme ça, mais au moins de petites pierres à l'édifice, c'est peut-être ça, parce qu'on n'a quand même pas la prétention de sauver le monde et tout. Mais on est heureux de pouvoir faire ça. Mais je crois que on peut aussi écrire des choses terribles et apporter aussi cette pierre à l'édifice. C'est ce que vous faites tous, c'est ce qu'on fait tous. Et c'est une autre façon aussi de peut-être de soigner. Moi, j'en suis convaincu.
Karina, tu te projettes aussi dans tes héros, héroïnes ?
Oui, il y a une partie de fantasme. J'ai grandi dans les comic books, donc les super-héros. Hein, donc, très jeune, j'ai voulu être une super-héroïne. Moi, je trouvais ça génial de pouvoir voler, de pouvoir se téléporter, de pouvoir lire dans les pensées. J'avais 10-11 ans quand j'ai commencé à plonger dans les BD de super-héros et ça me fascinait complètement. C'était la porte ouverte sur un univers de possibilités inouïes, de dire mais est-ce qu'il y en a vraiment. Et puis quand on est petit, on fantasme, on dit est-ce que celui qui l'a inventé, il a vraiment croisé un super-héros, et si ça existe, où sont-ils, qu'est-ce qu'ils font. Et donc en écrivant des héros qui ont un peu de pouvoir comme ça, c'est un petit peu se raccrocher à ce rêve d'enfance du super-héros, de la capacité de sauver son prochain. Et puis je crois que c'est aussi le fantasme de l'humanité. Où est le sauveur? Où sont les sauveurs? Pourquoi est-ce que les films de super-héros marchent autant en ce moment? Avengers, qui a dépassé le milliard de dollars de revenus, pourquoi est-ce que les gens vont voir ce film? attend des sauveurs, on attend des gens qui pourront dire le monde peut aller mieux. Alors l'idée, c'est de pouvoir dire dans ces livres, on n'a pas forcément besoin de voler et d'être un super-héros comme on les voit dans les films pour pouvoir sauver les choses. Hein. Parfois, une petite étincelle, un petit truc va pouvoir le faire. Mais je crois que oui, c'est le fantasme du héros dans toute sa splendeur. Et de dire
Wonder
des gens...
Wonder Woman sort de ce corps.
J'aimerais bien. Et pour moi... Quand je disais je vais faire cette conférence là sur les super-héros, on m'a dit tu vas parler du quotidien du super-héros. Je dis non, je vais parler des super-héros du quotidien.
Joli, c'est joli. Oui. Pourquoi vos héros sont-ils des super-héros? Est-ce que c'est nécessaire qu'ils aient des dons, qu'ils aient des facultés que d'autres n'ont pas? Est-ce que ça ne leur enlève pas une part d'humanité?
Déjà, le rapport au pouvoir, au super-pouvoir, une fois encore, je pense qu'il a pas mal évolué et nos différents personnages subissent en fait leurs dons et leurs différences.
Ils en souffrent.
Voilà, et en souffrent plus qu'ils ne les utilisent. Ça sera l'objet d'un très long apprivoisement de soi-même, peut-être, de réussir à utiliser ses capacités qui finalement sont plutôt des tares, voire des pathologies en ce qui concerne mon personnage principal, qui est complètement dépassé par les manifestations de son corps en pleine mutation. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de nouveau dans la littérature jeunesse et qui donne finalement plus de sens à ces personnages qui ne sont pas tout puissants, mais qui ont une part de fragilité. Et c'est en réussissant effectivement à comprendre qui ils sont, en assumant leur humanité, qu'ils réussiront peut-être à maîtriser leur inhumanité.
Manon ?
Bah oui, pour moi, c'est à la fois... ce que je disais tout à l'heure, l'exacerbation, ça se dit ça? Ouais, voilà, enfin un truc, voilà. de ce qu'on est tous, c'est ce que tu disais aussi, on est, voilà, il y a des gens qui vont avoir le don de danser, il y a des gens qui vont avoir le don de... On a tous des choses en nous, des potentiels. C'est faire ça en plus grand, et du coup en plus romanesque aussi. Mais ça... En fait, je crois que c'est aussi ce que tu disais, hein, le pouvoir ramène à l'humanité. Parce que avec le pouvoir vient la responsabilité, donc l'humanité.
Elle est pas de toi, ça, là, je crois.
Ça, c'est
merde, grillé.
Peter Parker, dans ce cas.
Oncle Ben.
Peter Parker.
Marie?
Bah, je suis absolument d'accord avec Victor et Manon. Oui, je pense que déshumaniser, ça humanise en réalité, et qu'on est toujours dans la métaphore. J'ai un petit peu l'impression de radoter, mais c'est vraiment cette idée-là. C'est amplifier quelque chose qui résonne profondément en nous. C'est juste l'art de la métaphore et de le raconter autrement. C'est le conte, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. C'est du conte.
Alors, on va poser une autre question à Ali.
Non, mais cela dit, c'est les super-pouvoirs en question. Ça permet au contraire de montrer que le héros n'est pas un super-héros, c'est un anti-héros, puisque ça fait un contraste encore plus fort entre finalement ses fragilités, ses failles et tout, dont on a tous parlé, et qui sont dans tous nos héros, enfin dans tous nos personnages. Donc je crois que vraiment c'est une métaphore, et en plus ça sert de miroir pour faire le contraste.
Quelque chose de plus à ajouter?
Qu'est-ce que je voulais dire
Zut.
Non, pour moi, le héros, justement, c'est ça, c'est l'humanité. C'est ce que je trouve intéressant, en particulier dans les super-héros, c'est ce qu'on appelle la gestion de la double personnalité. Ouais. Comment est-ce que je peux être un héros et un être humain en même temps? Comment est-ce que je peux assumer mes responsabilités de super-héros et mes responsabilités du quotidien?
On sent le vécu, hein.
Si tu savais. Mais moi, c'est un thème qui me passionne vraiment. Et effectivement, tout ça, c'est les questions que le jeune héros va se poser face à tout ce qui lui tombe sur la tête en disant mais ah, j'ai un monde à sauver, mais en fait moi je voulais pas du tout avoir un monde à sauver, je voulais juste être comme tout le monde, hein, et avoir une petite copine et m'éclater avec mes potes et aller au cinéma, et d'un seul coup j'ai le monde à sauver. Pourquoi moi déjà et pourquoi je peux pas mener une existence normale? Et effectivement ça ramène complètement aux questions de l'humanité, de la simplicité de l'humain et en même temps de toute sa complexité.
Mais il y a l'ambivalence de ça, il y a ce côté j'ai pas envie d'avoir un monde à sauver, j'ai pas envie d'avoir ce poids là sur mes épaules,
mais on le fait.
Et en
même
temps il y a le côté c'est génial, enfin, j'ai un truc
en plus.
J'ai un truc, bah, oui en plus j'ai un truc différent, enfin voilà, c'est
Marie, et si Saskia ratait son coup?
Ça serait mal. Non, alors, en fait c'est un c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà, c'est le tome 3, donc je ne peux pas en parler, mais mon objectif est qu'il y ait quelque chose derrière les apparences, et que sauver le monde, ou en tout cas pour Saskia, réunir les deux peuples, ce ne soit pas exactement ce qu'on attend. Voilà.
Vous voulez aussi, Élie, surprendre le lecteur avec vos histoires et avoir des fins peu convenues?
C'est prévu. Et comme le tome 5 va bientôt sortir et que c'est le dernier tome, permettez que je laisse Victor répondre. Mon cher ami.
C'est déjà fini.
Ouais, tu sais. Et
effectivement, surprendre le lecteur, je pense que c'est notre mission en tant qu'auteur, hein, de toute façon, c'est-à-dire de créer la surprise, de donner envie de tourner la page, de ne pas être là où on nous attend. Ça, c'est la forme du récit. Hein. Moi, mon quatrième tome se situe dans un univers totalement différent des trois premiers et néanmoins dans la continuité. Effectivement, je n'en dévoilerai pas plus.
J'ai pas lu encore.
Calme. C'est tout, juste un petit teaser.
C'est un et deux, là, s'il te plaît.
Moi, j'aimerais bien qu'on termine cette table ronde en donnant la parole à chacun pour qu'il explique son actualité et ses projets. Donc, Saskia, troisième tome, en route.
Alors, pas vraiment en route. En fait, j'écris un autre livre avant, qui est ce qu'on appelle un one-shot, donc un volume unique, pour la nouvelle collection qui va être annoncée dans 5 minutes, je crois, Young Adult, pour le Préau Clair.
Oui, dirigé par Xavier Mauméjean.
Exactement, voilà. Donc, je suis en plein dedans, et ensuite, je finis le tome 3 de Saskia. Et les deux devraient sortir au printemps 2013.
Élie ?
Alors, la chance d'avoir pas mal de choses à faire, donc c'est bien. Toujours plus, d'ailleurs, que je n'ai de temps. Mais là, je suis dans les corrections du tome 5. Je vais retoucher le 1 et le 2 pour la zone américaine, et puis je donne des éléments pour le film, puisque
les droits ont été achetés pour le film.
Warner, un petit Frenchie à Hollywood pour une fois.
C'est hein, bien.
Donc voilà, on est en train de leur fournir tout ce qu'on peut, comme en bons américains, ils ne lisent absolument pas le français et que seul le premier tome a été traduit pour l'instant. Donc,
c'est sur le premier tome que se basera le film.
Non, c'est sur la série. Ils peuvent tout faire, parce qu'ils ont acheté, comme ils ont acheté la franchise Harry Potter, ils font la même chose, ce qu'ils appellent une franchise. Donc ils peuvent faire les casquettes, les t-shirts, 10 films, un seul film. Mais ils veulent les éléments des 5 tomes, donc on traduit en anglais des résumés de 30 pages. Donc on fait en.
C'est la gloire, donc.
La gloire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est
le début.
C'est sympa de se dire que nos histoires, à nous tous, peuvent plaire un peu partout, et puis on font écho et en résonance à des populations qui ont une mentalité différente, qui voient. D'ailleurs, c'est pour ça que je retravaille le tome 1 et 2, des petites touches seulement et tout, mais parce qu'il y a des façons d'aborder des thèmes qui sont un peu différents d'un pays à l'autre, c'est assez étonnant. Autant l'Asie, par exemple, fonctionne très bien avec notre façon de voir, ils adorent ça. Les Américains ou les Anglais, c'est complètement différent. Il y a des choses qui ne. Donc voilà. Donc ça prend un petit peu de temps en plus du travail de création qu'on aimerait, auquel on aimerait
score. Et les
deux heures
de
stock, oui. Et des 19 000 de stock à rattraper.
Karina, l'actualité?
Alors j'ai le troisième tome de la saga d'Oregon, troisième et dernier, qui est sorti la semaine dernière. Donc Les Cracheurs de Lumière. En septembre, j'ai le premier tome de Phoenix. Qui sort chez Robert Laffont chez Robert Laffont pour la collection R, donc grosse aventure là. Ce sera une histoire en deux tomes, une duologie comme on dit maintenant. Et puis en novembre, pour les fans qui l'attendent, puisque j'avais la quête des livres au monde qui était une trilogie, l'éditeur Intervista s'est arrêté en plein milieu, donc je me suis retrouvée un peu avec une horde de lecteurs qui attendaient le troisième tome avec impatience et qui étaient frustrés autant que moi. La Talente qui va me reprendre la trilogie complète. Donc en novembre, le tome 1, le tome 2 et le fameux tome 3 inédit vont ressortir chez La Talente. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent avec impatience la fin, la conclusion de cette trilogie.
Manon ?
Moi, je suis dans les corrections en fait, du deuxième tome de June qui doit sortir en octobre. Et il y aura le troisième tome, a priori, au printemps 2013.
Et d'autres choses ?
D'autres choses en projet, mais pas encore suffisamment. Oui, déjà la suite.
On confirme.
Déjà finir. Et puis la suite plus tard. Mais effectivement, il y a des choses qui germent, des projets qui se mettent en place, mais pour l'instant, c'est encore très flou. Donc.
Et Victor, Jacques Spark, c'est fini?
Alors, Jacques Spark, voilà, c'est fini depuis l'apparition du quatrième tome il y a un mois. D'autres projets également. Il y aura une histoire totalement différente qui va apparaître début 2013, mais là, vous me permettrez de garder justement l'effet de surprise.
Non.
Rien dévoilé sur ce sujet pour l'instant.
Mais toujours jeunesse?
C'est possible.
Mais j'espère que cette table ronde vous aura donné l'envie de lire tous ces excellents livres et de rentrer dans ces univers différents et attachants. Merci à Marie, Élie, Karina, Manon et Victor. Merci à vous d'avoir été attentifs. Bonne journée.
Merci d'être venu.
C'était bien sympathique.
Merci pour cette animation.
C'est vous qui l'animez. On commence à avoir l'habitude, il était vraiment.
Oui, voilà,
on a bien foncé.
Le 3 est sorti en février 2012.
Ouais. Tant mieux.
Je suis vraiment
désolée,
je suis personne
d'autre. Et là, ça, normalement,
à partir de